Je vais faire des commentaires pour les deux interventions, l'une après l'autre, en essayant de tisser comme avant des lieux communs. Et là, mon interrogation, elle va porter sur deux aspects, celui de la critique et celui de l'habité. Parce que finalement, on la retrouve, en tout cas, cette dernière notion dans les deux interventions. Et celui de la critique, parce qu'elle est centrale dans la deuxième intervention, puisqu'elle fait vraiment une sociologie des critiques du développement durable, ce qui nous occupe aujourd'hui. Et on pense que c'est important de revenir et de questionner au fur et à mesure de la journée et des deux jours cette question quels vont être les appuis, les prises, aussi les ressorts d'une critique, c'est-à-dire en quoi finalement le développement durable est critiquable, quels sont les ressorts de cette critique, qu'est-ce qui est indigne des personnes qui le critiquent, quels sont les appuis de cette critique, à partir de quel horizon normatif, et quelles sont les prises de cette critique, quels sont les dispositifs, les instruments, les mises à l'épreuve qui permettent de porter des jugements critiques. Et donc cet horizon en fait, de la critique était moins présent dans l'intervention de Guillaume, que d'une certaine manière, il fait un travail important puisqu'il montre quelque chose, il montre comment le développement d'un référentiel de développement durable, d'abord n'est pas unique, c'est-à-dire qu'il y a des différentes manières, et en particulier sur un objet comme écoquartier, il y a différentes manières de qualifier tel ou tel objet comme écoquartier, donc il y a déjà des lieux de rupture à l'intérieur même des objets qui sont qualifiables comme participants du développement durable. Et derrière ça, plus profondément, ce qui montre, c'est que d'une certaine manière, le développement d'un référentiel de développement durable permet de recomposer le monde. Il y a une grammaire normative, qui s'appuie sur des valeurs, sur des principes, hein, comme il l'a expliqué. Hein. Bon, j'ai pas eu le texte, hein, on n'a pas eu le texte de Guillaume Fabirel, donc là je réagis sur son intervention. Hein. Et donc des appuis normatifs, donc des principes et des valeurs qui permettent de recomposer le monde. Et c'est dans cette recomposition du monde que je pense se trouve. Les ressorts d'une critique, c'est-à-dire finalement, c'est ce qu'on a déjà entendu avec Hélène Régnier, hein, c'est cette idée qu'on va critiquer le développement durable parce que dans la manière dont il va juger des bons et des mauvais comportements, qu'il va juger des bons et des mauvais modes d'organisation, il a une force d'exclusion, il peut écraser certains phénomènes, il peut exclure certaines personnes. Et donc c'est important de comprendre en fait comment ce cheminement d'un ensemble de principes se transforme en des référentiels de jugement, comme le montre Guillaume. Et donc du coup, j'aurais aimé t'entendre, vous y avez déjà réfléchi, ou c'est quelque chose que vous allez travailler, cette question en fait de la critique en fait par rapport à ces référentiels, par rapport à aussi peut-être d'une certaine manière tu as mis en regard deux formes d'habiter qui sont plus ou moins valorisées, hein, une qui est massivement valorisée dans un principe de gouvernementalité et un peu top down si je résume très fortement, et puis une autre forme d'habiter qui est aux marges presque de ce qui est nommé écoquartier et qui pourtant peut-être vient toucher, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus avec l'intervention de Guillaume cet après-midi, je ne sais pas si je prononce juste, ou d'une certaine manière, derrière ce qui se joue dans le développement durable, il y a cette réaffirmation d'un attachement fondamental au monde. Et si je dis ça, c'est parce que ça me permet de faire la transition vers la deuxième intervention, puisque elle met en question, elle montre effectivement l'importance de cette, de cet attachement fondamental au monde. Alors avant de venir là-dessus, je fais un petit retour sur cette deuxième intervention. Ce que j'ai apprécié dans cette intervention de Kanmas Deu, sur Kanmas Deu, c'est effectivement l'idée de porter son regard sur un lieu de résistance. C'est important, on l'a évoqué auparavant aussi, Jérôme Boissonnade, aussi par rapport à la question de la déviance, mais plus largement c'est la question de la tension et du conflit. Parce que si on doit lire la normativité du développement durable, on est obligé de se porter à des moments où aussi elle pèse sur le monde, où il y a des résistances, et la manière dont ces résistances sont qualifiées, ça nous permet de comprendre effectivement à la fois l'effet potentiel de violence du développement durable et les appuis normatifs de la critique. Et donc, ce qui m'a intéressé dans cette intervention sur Kanmas Deu, c'est la manière dont, finalement, là encore, ce qui est critiqué dans le développement durable tel qu'il se développe de manière la plus institutionnelle, c'est la manière dont il va finalement écraser certaines manières d'être au monde. Et donc, du coup, cette idée qu'il faut réaffirmer par l'occupation, par l'expérience, on retrouve un modèle aussi de la critique qui est celui des années 70. Il est important parce que c'est ce modèle de la critique qui est au cœur des premiers débats de la durabilité, c'est-à-dire une critique qui passe par la transformation des manières de vivre ici et maintenant, et une critique qui passe par la transformation des manières de délimiter le monde. Et donc il y a un floutage des frontières, et il est très actif. On le voit, ils l'ont décrit, ils le décrivent de manière plus fine dans le texte, où on essaie de prendre un ordre plus mouvant, de faire des compromis. Et cette question du compromis, elle est intéressante parce que elle est à l'horizon aussi de la critique, c'est-à-dire que toute critique ouvre aussi à la possibilité du compromis. Et donc pas simplement l'idée de dire voilà, on va mettre ensemble la convivialité et la sécurité, ou on va mettre ensemble l'urbanisation et la protection de la nature, mais aussi la manière dont cette mise ensemble passe par des dispositifs matériels, passe par des agencements du monde. Et donc on voit comment aussi la critique du développement durable oblige à recomposer aussi le monde et à prendre en compte différents ordres normatifs. Alors une fois que j'ai dit ça, deux éléments alors problématiques pour continuer la discussion. Tout d'abord, il y a cette question effectivement de l'habité. Et donc derrière les deux interventions viennent en fin de compte sur cette question de l'attachement au monde, des attachements variables au monde. Donc, et c'est pas étonnant parce que finalement la durabilité, le développement durable, c'est aussi de faire avec ce qui nous environne, c'est la manière dont on appréhende ce qui nous environne, comment on traite les attachements au monde. Et donc là, il y a une question qui est celle aussi de la proximité, hein, qui n'a pas été ouverte ici. Et donc dans cette habité, je pense qu'il faut le prendre encore plus au sérieux que ce qu'il a été pris dans les deux interventions, parce que d'une certaine manière, dans l'intervention de Kanmas Deu, dans le texte en tout cas, c'est rabattu sur des savoirs habités, c'est des différents savoirs habités d'habitants, des savoirs situés. Mais habiter le monde, c'est aussi beaucoup plus un corps engagé. C'est quelque chose qui vient de... Je pense au travail de Marc Brévillieri là-dessus, où il montre que dans l'habité, il y a... Il y a quelque chose de l'ordre de l'aisance la plus fondamentale au monde et qui excède les possibilités même de formalisation. C'est parce qu'on a des normes de confort qu'on peut être à l'aise, qu'on peut bien habiter, etc. Et donc du coup, ce point en fait du corps éprouvant qui est peut-être au cœur des critiques du développement durable, dans la mesure où le développement durable, du moment qu'il se formalise, vient vient réduire cette singularité, vient remettre des frontières. Je pense que là, on a besoin de bien comprendre quel est ce ressort de l'habité, quels sont ces êtres au monde qui sont écrasés par ce qu'on appelle un référentiel du développement durable, tel que l'a mis en évidence par exemple Guillaume Faburel. Et du coup, un dernier point, alors critique sur votre intervention, c'est que en contrepoint, vous mettez le commun. Vous dessinez presque un monde idyllique de Colmas de Déhou, où finalement on a réussi l'impossible. Et j'aurais envie de symétriser la critique à ce moment-là. C'est-à-dire que si la grammaire normative du développement durable, si la grammaire normative de la position étatique, d'un partage particulier autour du parc, le commun, c'est aussi quelque chose qui suppose des grammaires normatives fortes. Pour que le commun reste du commun, ça suppose que les appropriations soient retenues. Nous, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le squat, et précisément, dans un vivre ensemble, dans un horizon militant, ça rend très difficile d'habiter à son aise. C'est-à-dire que l'aise va tout de suite apparaître comme de l'empiétement, de l'appropriation indue, de l'écrasement, de l'étouffement. Et donc, du coup, je pense que là, il y a quelque chose à symétriser et à penser les tyrannies de chacun des modèles qui sont mis en jeu.